Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous avons tout un programme pour vous aujourd'hui. Nous allons recevoir la visite de Mario Jean, l'humoriste, à 11h30 environ, qui, avec son nouveau spectacle, s'intéresse entre autres à la bêtise humaine. Et ça, là, ça nous donnera l'occasion de parler de plusieurs exemples qui courent malheureusement en ce moment. Des exemples surtout qui se retrouvent beaucoup sur les réseaux sociaux de gens qui ont juste pas de bon sens puis qui mériteraient de se garder une petite gêne. Bref, Mario Jean pourra nous dire ce qu'il pense de ça. Vous savez aussi que les évêques catholiques du monde sont réunis au Vatican là, pour quelques jours pour le fameux synode sur la pédophilie dans l'Église. Donc, on va revenir là-dessus, nous, aussi en deuxième heure. On va se poser la question, est-ce que le pape, pensez-vous, va pouvoir chasser la pédophilie de l'Église? Une méchante question. On verra ce que nos invités en pensent. J'aurai, entre autres, un des porte-parole des victimes de religieux de Sainte-Croix, qui est un gros cas ici au Québec, où on a été effectivement très touchés par cette histoire de pédophilie dans l'Église. En première heure d'émission, je voulais revenir sur une situation, moi, qui me touche depuis... Ça fait déjà un petit moment, d'ailleurs, puis on s'en est déjà parlé ici, de notre état d'esprit. Hein. Souvent, je fais des émissions sur le travail, sur... je demande comment vous vous sentez. Et là, j'ai l'impression... qu'on a besoin d'élargir ça à la vie. La vie, c'est oui, c'est vrai, c'est le travail, mais c'est toutes les autres sphères aussi qui touchent notre vie personnelle. Mais regardez, dernièrement, là, on apprenait qu'il y avait des médecins qui s'étaient enlevé la vie. Au cours des trois dernières années, là, plus d'une douzaine de médecins qu'on sait, là, il y en a peut-être d'autres qu'on n'a même pas été capable de savoir, mais qui s'étaient eux aussi suicidés. Des médecins donc qui s'enlèvent la vie parce qu'ils sont trop fatigués ou ils ont des problèmes personnels puis ils sont pas capables de les gérer. Évidemment, les profs, on le dit, depuis combien d'années qu'on dit que nos enseignants sont à bout de souffle? Ils lancent des cris d'alarme, des cris du cœur, ils savent plus quoi lancer pour... ils sont à veille de garrocher leur chaise de bureau pour nous dire « Comprenez-vous ce que je vous dis? » Non. On fait comme la sourde oreille. Hier, j'avais des préposés aux bénéficiaires, eux aussi, plus capables, deux fois trop de monde à s'occuper. Tu peux pas gérer une personne âgée lourdement affectée, peut-être pas tout à fait là, avec des cas d'Alzheimer, de sénilité, en 6 minutes et quart. On peut pas ça. Je veux dire, on va, sans doute, vous allez nous dire que vous aussi, dans votre milieu de travail, vous envoyez des gens en épuisement. Mais est-ce que c'est le Québec au complet qui est fatigué? Êtes-vous tous épuisés? C'est ça que je veux qu'on discute ensemble ce matin. Je veux essayer de mesurer finalement votre état d'esprit puis votre santé. Comment ça va? C'est aussi bête que ça. Je veux savoir comment vous allez, vous, ce matin, dans votre tête puis dans votre corps. Avec nous, Yves Lamontagne, ex-président du Collège des médecins du Québec et de l'Association des médecins psychiatres. Merci beaucoup, docteur Lamontagne, d'être
Bonjour,
avec nous.
Madame.
Je crois que c'était important de vous avoir parce que, en plus, vous êtes psychiatre. Donc, pour la tête, vous allez nous aider. Vous avez été président du Collège des médecins. Donc, bref, vous êtes une... C'est parfait que vous soyez là. Vous vous êtes intéressé également. J'ai ressorti un des livres que vous avez écrit ce matin. Vous êtes intéressé à l'enfer, c'est comme ça que vous le titriez, l'enfer du système de santé. Vous avez, vous, proposé pas mal d'affaires qu'on attend encore que ça soit mis en vigueur.
Hein? Oui.
Avec nous également, Julie Debelle, enseignante retraitée, qui a écrit le livre « Enseigner les dessous de l'éducation ». Il y a un jeu de mots ici. « Enseigner comme on va vous en faire saigner. On va vous faire saigner. »
Non, c'est plutôt se saigner avant.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
C'est ça. Tous les deux, là, dans votre milieu respectif, milieu médical, milieu de l'éducation, vous êtes un peu en retrait, vous vous êtes mis en retrait. Julie, dans votre cas, vous avez... Bon, tous les deux, vous êtes à la retraite, mais vous avez décidé, vous aussi, Julie, de dire « Moi, je veux plus ça, comme
oui,
plein d'enseignants le font en ce moment.
Tout à fait. Moi, j'ai eu quand même l'occasion de pouvoir prendre ma retraite en prenant seulement 40 % de pénalité. Alors, j'ai pas une pleine retraite et faire autre chose. Entre autres, je suis allée enseigner en Chine pendant 6 mois et ça m'a permis justement de comparer les deux systèmes avec la clientèle de la Chine par rapport à la clientèle, ce qu'on appelle la clientèle. Là. Je veux pas faire du clientélisme, le syndic comme t'as près dessus. Mais enfin, la différence entre les apprenants ou les étudiants en Chine et les étudiants au primaire.
Et êtes-vous en train de me dire que c'est mieux en Chine qu'ici?
Ben, il y a des choses qui sont mieux et il y a des choses qui sont moins bien. Certainement, une des choses qui est mieux et qui, je pense, contribue à l'épuisement aussi dans le domaine de l'éducation, c'est qu'il y a un consensus en éducation en Chine, c'est-à-dire que le contenu, il est uniforme, il suit une ligne directrice qui est claire et il n'y a pas un enfant qui quitte le primaire sans savoir écrire quand il est à l'école, évidemment. S'il n'est pas à l'école, là, c'est une autre chose.
Fait qu'il y a moins d'épuisement chez les enseignants chinois que chez les enseignants québécois, vous diriez?
Moi, d'après ce que vous avez j'ai constaté, ouais. Absolument, et ils enseignent 6 jours semaine, 10 heures par jour.
Oh,
mais c'est pas le même rythme.
Non. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont peut-être plus habitués que nous à marcher aux fouettes aussi?
Ouais,
est-ce que c'est ce qu'on souhaite,
mais
non?
J'ai travaillé là, j'ai pas senti à aucun moment que je marchais aux fouettes.
Ouais. Ouais. Docteur Lamontagne, dans le milieu de la santé, ça marche aux fouettes quand même pas mal ici aussi parce qu'on a comme pas le choix. Là. On entend les infirmières dire qu'elles sont obligées de faire du temps supplémentaire puis que ça peut plus continuer comme ça. Les collègues à vous, médecins, qui s'enlèvent la vie parce qu'ils sont juste plus capables de répondre, d'avoir la capacité de répondre aux besoins, à leurs besoins et à ceux de leurs patients. Comment vous voyez ça, vous, qui avez cette longue expérience de vie?
Au fond, vous avez parlé de la vie, justement, tantôt. Puis je vous dirais, c'est un problème de vie qu'on a actuellement. Oui. Et que ce soit pour les médecins, les infirmières ou les enseignants, c'est le même problème. Vous savez, moi, je pense qu'au départ, dans notre société, on pousse beaucoup sur les enfants pour qu'ils soient très, très productifs.
Performant.
Donc, par exemple, vous arrivez à l'école secondaire, surtout si vous voulez aller au privé, bien là, il faut vous passer des tests. Mm. Vous êtes 1000 à la porte, ils vont en prendre 100. Vous imaginez la compétition. Vous arrivez au cégep, exactement la même affaire. Mm. Vous arrivez à l'université, la même chose. Et pour vous donner un exemple fort simple, moi, j'ai déjà donné le permis à une infirmière avec qui je travaillais, qui avait fait sa médecine sur le tard. Mm-hmm. Puis j'avais demandé, comment vous avez trouvé ça de vous retrouver avec un paquet de gens? Elle a dit, je vais vous donner seulement deux anecdotes. La première, elle a dit, le premier examen que j'ai eu en première année de médecine, j'ai eu 97 %. Elle a dit, waouh! Elle a dit, savez-vous quoi? Elle a dit, non, j'étais la dernière de la classe. Il y avait tout 99% et 100%.
Ah, non.
Donc, vous voyez, c'est toutes des bols qui sont habitués à réussir tout le temps.
Ouais. Dans un contexte, dans un cadre de notes et de...
Voilà.
Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi le cours d'empathie pour autant.
Non, voilà. Puis là, deuxième exemple qu'elle me donnait, qui va tout à fait là-dedans, elle dit, vous savez, j'ai appris que si je demandais à un collègue, mettons une question, faisait exprès pour me donner la mauvaise réponse, parce qu'à la fin de la première année, si vous ne réussissez pas, vous sautez.
Ouais.
C'est-à-dire, vous débarquez.
Il y a de l'écrémage.
Alors, vous voyez, puis moi, je me dis, c'est avec ça qu'on va faire des médecins humains. Ben voyons donc. Alors, dès jeune, vous êtes poussé à être compétitif. Maintenant, vous arrivez dans le milieu. Et là, pour la première fois de votre vie, vous êtes fait face à non, ça, pas tout le temps des succès comme vous avez eu, mais à des échecs aussi. L'infirmière, elle ne peut pas tout les guérir, le docteur non plus, puis l'institutrice ou l'instituteur ne peut pas avoir toutes des petites bolles puis des petits génies dans sa classe. Donc, pour la première fois, là, vous faites face à l'échec. Et comme vous n'avez jamais connu ça, bien, c'est difficile. Sans parler en plus que vous êtes obligé d'avoir un paquet de monde, puis vous n'êtes même pas capable de donner un bon service à ce monde-là.
Mais il y a quelques années, on disait, bon, il y a à peu près bon an, mal an, c'est bête de le dire comme ça, mais la statistique nous force un peu à le présenter de cette façon-là. On disait qu'il y avait à peu près 2 médecins au Québec, d'après ce que j'ai lu, qui s'enlevaient la vie. Là.
Donc, ça a augmenté.
Là, aujourd'hui, c'est au moins le double, puis je disais, de ce qu'on sait, parce que c'est pas clair des fois.
Non, c'est ça.
Il y a quelque chose, puis j'avais vu un documentaire l'année dernière, il y a 2 ans, sur justement l'épuisement des médecins. Donc, visiblement, c'est pas parce qu'on leur a donné 7 milliards de plus que ça va mieux, hein?
Non,
l'argent ne peut pas servir de diachylon. C'est comme si on prenait les affaires du mauvais bord, du mauvais bout. Y a-t-il quelque chose qu'on est en train d'échapper, docteur Lamontagne?
Moi, je pense qu'on a oublié l'humanisme en arrière de tout ça. Mais évidemment, vous avez de la misère à être humain si vous n'avez pas ce qu'il faut pour que vous travailliez de façon humaine non plus. Mais je trouve que malheureusement, on a oublié l'humanisme dans nos domaines respectifs. Et ça, c'est bien, bien, bien important. On est des numéros et souvent, on traite les gens comme des numéros. Et c'est ça le tort.
Julie, vous diriez la même chose, manque d'humanisme. Justement, l'école est là pour enseigner ça.
Oui, ben c'est ça. Je vais répondre à quelques aspects où je vais renchérir sur quelques aspects du docteur Lamontagne. D'abord, quand il parle des échecs, je pense que le problème, c'est que dans nos écoles primaires et secondaires, au nom de l'estime de soi, on ne permet plus aux jeunes de vivre des échecs qui sont en fait réels parce que ça fait partie de l'apprentissage de vivre des échecs. Alors, on donne, par exemple, des collants ou des bonus. Ah, ben, t'as fait un effort.
Ou on fait passer tout le monde alors qu'il y en a qui devraient peut-être doubler.
Ouais. Et quand il parle des diplômes ou des étudiants qui ont des 99 %, il faut aussi peut-être faire attention à ce qui s'appelle la bonification des diplômes. C'est-à-dire qu'on est souvent rendu à donner des notes sans qu'il y ait quoi que ce soit en échange. C'est-à-dire que le jeune, puis on a ça maintenant, moi j'ai vécu ça au cégep, où l'étudiant vient te voir et dit, ben, je mérite pas 72 %. Ben, c'est parce que c'est pas une question de mérite, mon coco. Pas rapport, j'ai pas le travail. Viens, on va regarder le travail, on va corriger. Mm. C'est parce que t'as la note que t'as selon les barèmes de correction. J'ai pas improvisé une note. Mm. Je me souviens, au primaire, j'avais reçu des étudiants qui avaient transféré du privé au public. Et au privé, en anglais langue seconde, ils avaient des moyennes de 85 %, ce qui n'était pas réaliste.
Ouais.
Parce qu'en fait, ils valaient à peu près 75 %. Et je n'étais pas quelqu'un qui punissait par la correction non plus. Là, on ouais. s'entend. J'étais mais, assez juste.
Mais si on revient, là, parce que notre sujet, c'est vraiment l'épuisement. Là.
C'est ça.
Alors, et le fait que la société québécoise, dans son ensemble, semble être atteinte de ce mal sournois. Donc, moi, je veux bien... Il y a toutes sortes de raisons là,
oui,
qui sont systémiques et tout, mais est-ce que c'est un constat général et sur lequel on doit véritablement se pencher, d'après
mais je
vous?
Pense que, comme il disait, quand docteur Lamontagne parlait du fait que c'est un problème de vie, je pense qu'un des problèmes qu'on a dans notre société, c'est qu'on a des attentes extrêmement élevées par rapport à nos avoirs, à notre mode de vie à l'extérieur du travail, le nombre de voitures, le nombre de voyages, les paires de chaussures, les bijoux, les teintures, enfin bref, on est devenu une société de consommation à outrance. Mais il faut que ça se paye, ça. Et pour se payer ça, ben, il faut travailler puis mettre des bouchées doubles. J'avais à un moment donné enseigné avec une enseignante brillante au secondaire qui, elle, avait décidé qu'aux 5 ans, elle prenait un congé sans solde. Et c'était sa façon à elle d'éviter justement l'épuisement en bout de ligne.
Docteur Lamontagne.
Ben, c'est une façon, mais moi, ce qui me surprend un peu aussi là-dedans, c'est comment ça se fait qu'il y a une statistique qui est sortie il n'y a pas longtemps et qu'au Québec, on semble avoir plus de ce genre de problème-là, alors qu'on travaille moins que dans les autres provinces canadiennes.
Mm.
Alors, on doit avoir un problème un peu spécial puisqu'on travaille moins, mais on s'en plaint plus.
Légèrement alors moins. Pas tant moins. Là.
C'est ça,
quand on regarde les chiffres.
On ouais. travaille moins qu'ailleurs. Mm. Bon. Mm-hmm. Alors, donc, je pense qu'il y a des éléments qui sont importants là-dedans aussi, mais je reviens encore à une question d'apprentissage. C'est comme si, parfois, nos jeunes étaient habitués, puis je vous l'avais dit tantôt, j'ai 72, mais je mériterais 90.
Mais c'est pas juste les jeunes, là. Moi, je vous le dis, là, c'est tout le monde.
Oui, mais remarquez, c'est le monde qui sont rendus maintenant, qui ont des problèmes,
ouais.
ils viennent de cette cohorte-là.
Mm-hmm.
Vous savez, les baby boomers, là, ils sont là. Alors, puis ils viennent de cette cohorte-là.
Ouais.
Et probablement que c'est ça qu'il faut changer. Je disais à madame tantôt, vous savez, il y a des enfants aujourd'hui que c'est eux autres qui mènent la famille.
Mm.
Avant ça, il y avait l'enfant esclave qui est devenu l'enfant roi. Puis là, moi, je disais à la blague...
Mais c'est parce qu'avant, il était 12. C'est sûr que quand t'es tout seul,
c'est ça.
Plus d'attention.
Mais là, moi, je me dis maintenant, il y a des enfants pep, pas élevés pantoute.
Ah, ouais.
Et ça existe aussi. Puis dans le milieu scolaire, c'est eux autres qui ont le problème.
Ouais.
Parce que c'est un peu comme si c'est le prof qu'il faudrait qu'il éduque l'enfant, alors que ça devrait être fait à la maison.
Ouais. Ouais.
Mais pour en revenir un peu à l'analogie que j'essaie de faire justement avec la Chine, avec 10 heures de cours, ce ne sont pas 10 heures qui ressemblent à nos 5 heures de cours tassés. Quand je prends le primaire, par exemple, parce qu'au primaire, on a 5 heures de cours, de jours de classe, d'heures de classe par jour. Et là, ils veulent allonger la récréation en plus d'une demi-heure.
Ben oui.
Alors, ça veut dire
que les profs soient
Moi, j'appelle ça du gavage d'horaire. Mm. Alors que, justement, le 10 heures chinois, comme on dit, ben, ils font toutes sortes de choses. La musique, ils font 2 heures de sport en après-midi. Les profs sortent dehors et font de l'éducation physique avec leurs jeunes. Fait que c'est pas le même rythme. Alors, même s'ils travaillent longtemps, et plus, c'est comme...
Mais je vais vous remettre, puis on va s'arrêter là-dessus, puis on va demander aux auditeurs de nous dire comment, quel est leur état d'esprit et leur état également physique, parce que les deux, hein, docteur, sont liés. L'état mental, puis le physique aussi. C'est pour ça qu'on finit par se rendre malade si on n'est plus capable de gérer notre vie, puis à la fois les sphères du travail. L'équilibre doit se faire entre les sphères travail, les sphères professionnelles, bien sûr, et la sphère personnelle. Donc là, si tout le monde fait le constat qu'il est fatigué, il est épuisé, on a un méchant problème. Il faut s'en occuper. 514-790-9850. Dites-moi comment vous vous sentez. Je vous pose la question tout simple ce matin. Comment ça va? Comment ça va dans votre tête? Comment ça va chez vous? Êtes-vous comme les professionnels de la santé, les enseignants, le milieu de l'éducation, le milieu des... Il y en a vraiment beaucoup, là, de gens là, qui aimeraient beaucoup qu'on leur tende la main, qu'on les aide ou qui se sentent tout seuls. Personnes âgées, les aidants naturels, préposés aux bénéficiaires. On peut faire la liste, elle va être longue. Vous pouvez en rajouter du monde là-dessus aussi. Mais je pense qu'il faut qu'on s'occupe de notre santé. Et c'est drôle, j'ai une belle citation de votre livre... Julie Debelle, dans Enseigner les dessous de l'éducation, vous nous rappelez, l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Et à qui on doit cette citation? C'est Victor Hugo.
Mm-hmm.
Des fois, tu ressors tes classiques. Ça fait du bien de se remettre des affaires en tête ça. On vient tout de suite après ceci avec vos commentaires. J'ai hâte de vous entendre. Toutes nos lignes sont pleines, alors je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose ce matin. Je vous rappelle qu'on est en compagnie du docteur Yves Lamontagne, ex-président du Collège des médecins du Québec, ex-président de l'Association des médecins psychiatres également, qui a pratiqué toute sa vie aussi, qui a été sur le terrain, bien sûr, et qui a été capable de mesurer notre état d'esprit. Donc, c'est intéressant d'avoir votre évaluation de l'évolution de notre mental, docteur Lamontagne. Ça. Julie Debel est enseignante retraitée. Elle a écrit le livre « Enseigner ». Enseigner comme le verbe « je me sens ». Jusqu'à ce que
Seigne à blanc.
Ben, c'est ça.
Ça. Se saigner.
Les dessous de l'éducation. On a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Je vous donne le numéro à nouveau, 514-790-9850. Dites-moi comment ça va chez vous. Êtes-vous épuisé comme à peu près tout le monde au Québec, d'après ce qu'on entend? Marie-Chantal, bonjour. Vous êtes dans le secteur de la santé?
Oui.
Je vous écoute.
Moi, ça va comme je fais j'ai développé des crises de panique au travail, étant donné... le manque de personnel, la surcharge de travail dans le milieu, de voir les patients ou les résidents qui se trouvent laissés un peu à eux-mêmes dans certaines situations, de voir parfois certains quasiment gaver des personnes pour que on arrive dans l'horaire de travail ou des choses comme ça, ça m'a complètement fait disjoncter.
Ah oui, et donc ça vous a, quand vous dites j'ai complètement disjoncté, ça veut dire vous êtes sorti, vous avez été obligé d'arrêter de travailler?
Oui.
Puis, est-ce que c'est une évaluation de burn-out, c'est-à-dire d'épuisement professionnel que vous avez eu?
Il y a eu un burn-out, mais c'est surtout les crises de panique que j'étais plus capable de contrôler, que je ne peux pas travailler si je me mets à trembler par hyperventiler.
Vous êtes encore dans cet état-là, Marie-Chantal?
Je suis au retour au travail. Ma dernière journée de travail s'est conclue avec deux crises de panique puis un retour à la maison.
Est-ce que vous voyez le jour où vous allez vous sentir mieux?
Ben, j'ai hâte parce que j'ai choisi ce métier-là pour les aider.
Ouais.
J'ai pas l'impression de les aider.
Ah, c'est ça. Êtes-vous en train de vous dire, mon Dieu, je vais peut-être faire autre chose pour me sauver moi-même aussi? À un moment donné, il faut faire attention à soi.
Ben, à quelque part, non, parce que si je décide de faire ça, il y en a d'autres aussi qui vont le faire. À un moment donné, il n'y aura juste plus personne.
C'est ça, hein? Ben oui.
Mais est-ce que vous avez de l'aide aussi?
Oui, je suis suivie par trois professionnels.
Okay.
Ben ça, déjà, c'est une chance, hein, Marie-Chantal, parce que c'est tellement difficile, ben, docteur Lamontagne, hein,
en ce moment. Oui, puis surtout de vouloir avoir de l'aide.
Oui.
Le malheur, souvent, c'est que les gens attendent trop longtemps avant d'aller chercher de l'aide. Sinon, ils vont jamais. Ce qui est le cas des médecins, d'ailleurs, la plupart du temps.
C'est sûr, parce que quand tu as le nez collé aussi sur le mur, tu vois pas, là.
Non,
tu vois
ça.
Rien.
Ou tu veux pas voir.
Oui. On a Marie qui est avec nous. Merci, Marie, de nous appeler. On vous écoute.
Oui, bonjour. En fait, moi, ça va bien.
Bon, tant mieux. Au moins une.
mais je trouve quand même que ça va vite. Tu sais, on se met beaucoup de pression. Par exemple, ce matin, ça m'a pris 1h30 de me rendre au travail. Il n'y a pas d'accident, il n'y a rien, puis c'est 20 kilomètres.
Oh mon Dieu, vous venez d'où? Vous étiez où, Marie?
Sur la 13.
Aïe.
Donc, quand on prend en compte le nombre de temps que ça rajoute dans notre journée, on doit travailler 40 heures par semaine.
Ouais.
Même si on veut pas... Tu sais, moi, j'adore mon travail, mon conjoint aussi. On voudrait pas changer, mais on aimerait diminuer à la place nos heures plutôt qu'une augmentation de salaire pour tranquillement finir vers la pré-retraite et non toujours plus de sous. Mais si t'aimes ton travail... Bien, on veut pas changer non plus pour quelque chose qu'on aimerait moins parce qu'on veut travailler 30 heures plutôt que 40.
Qu'est-ce que vous faites comme travail? Julie vous demande,
Qu'est-ce
Marie?
Que vous faites comme travail, Marie?
Je travaille pour la route. Mon conjoint travaille dans le secteur des transports, mais tu sais, le point, c'est que les employeurs nous laissent pas. Tu sais, on travaille à temps plein ou à temps partiel, puis le temps partiel est pas partout. C'est nous, ce qui nous sauve, c'est vraiment la famille. On est super bien entouré avec les enfants. Mais si tu veux bien manger, cuisiner, pas acheter le repas préfet, mais c'est sûr qu'à un moment donné, le temps finit par manquer. On veut avoir un mode de vie sain, global. On travaille, on a le trafic. Donc, je pense que l'épuisement est rarement dû juste au travail, mais au mode de vie complet qu'on mène.
Oui, mais juste dans tout ce que vous avez dit, Marie, vous dites que ça va vite, puis il faut dire, on s'en met, est-ce que vous diriez qu'on s'en met trop sur les épaules, justement, avec « faut bien manger, faut faire ci, faut faire ça ». Il y a comme des obligations nouvelles aujourd'hui pour être une bonne famille, un bon parent, une bonne mère, un bon père, trouvez-vous ça,
Marie? On a le droit à la pizza de temps en temps, une fois par semaine. Au fond, il faut savoir se pardonner et pas toujours chercher à être parfait.
Marie, vous en pensez quoi?
Je vous dirais deux points à propos de Marie. Première des choses, on voit un retour à la ville. Souvent, des gens qui sont dans la banlieue, puis vous perdez tellement de temps à voyager que vous redéménagez en ville.
Oui, mais là, aujourd'hui,
mais
justement, docteur Lamontagne...
Oui, il y a une tendance à l'inverse.
Ah, OK, c'est ça. C'est ça que j'allais vous dire. Oui,
c'est ça. Il faut faire attention à ça, parce qu'il y a un prix aussi à ça. Mm-hmm. Deuxièmement, madame a soulevé le temps partiel. Mm-hmm. C'est une très bonne question. En médecine, on a ce problème-là parce que comme médecin, imaginez, avec les fonctionnaristes et tout ça, vous ne pouvez pas travailler à temps partiel parce que c'est des équivalents plein temps. Et ce qu'on appelle les PREM, les programmes régionaux d'effectifs médicaux, ben vous êtes à temps plein ou vous n'êtes pas là. Alors qu'on devrait permettre aux femmes, par exemple, de travailler à temps partiel. On pourrait avoir deux dames qui travaillent chacun un demi-temps. Mmh.
Ça ferait aux femmes, complet. Aux hommes aussi.
Aux hommes aussi,
là.
Oui, ouais. Oui.
Mais
je pense surtout
personnel.
Aux femmes à cause ouais. De la famille et ouais. Tout. Là. Bon. Ouais. Mais on devrait pouvoir permettre ça, mais jusqu'à maintenant, on ne le permet pas. Vous êtes soit à 100% dans le système public, ou sinon, vous débarquez et vous en allez en privé.
Ouais. Mais en même temps, comme dit Julie,
il manque de personnel.
Ouais. Est-ce qu'on manque de médecins? Ben, c'est toujours le même débat. Est-ce qu'on manque c'est de médecins?
Oui, mais là, on n'en manque plus tant que ça. Ouais. On a déjà
c'est des
manqué.
Profs dont on a besoin. Ouais. Ça, on en cherche.
Dans les médecins, ouais. On en a assez, à mon avis.
Est-ce que Marie est toujours là, JC? Parce que Marie, oui. Bon, sur la charge mentale, on en vient là. Qu'est-ce que vous avez... Avez-vous l'intention de changer quelque chose là-dessus? Ou comment vous voyez ça?
Bien, en fait, moi, je vais super bien. Puis on est bien entourés. Là. Je crois que c'est vraiment ce qui nous sauve. Mon conjoint est super présent dans la vie familiale. Donc, la charge mentale, oui et non. Puis est-ce qu'on veut changer notre mode de vie sain?
Ouais.
Oui, on se permet un fast-food. On ne culpabilise pas. Mais ça fait quand même pas partie de nos valeurs.
Non.
Pour nous, ben, de bouger, d'avoir des activités... physique, puis ben, se nourrir, c'est un loisir aussi. Là, tu sais, cuisiner, on peut le faire avec, avec plaisir. C'est pas obligé d'être une corvée, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mm. Mais reste que ça rajoute quand même dans... Il y a seulement 24 heures dans une journée. Tu sais.
Ouais,
donc, au bout du compte, on doit les gérer. Mais moi, je crois vraiment que le temps partiel... Quand on ne veut pas quitter nos emplois, les professeurs, ben, c'est un petit peu la même chose. Les médecins, mais dans tous les corps de métier... Si on permettait ça, autant que la pré-retraite, ben on aurait peut-être plus de travailleurs parce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller sur le marché du travail, mais ils n'ont pas envie de 40 heures semaine
non.
Parce que c'est trop.
Mm-hmm.
Donc, peut-être qu'on aurait des gens qui reviendraient, qui seraient plus en forme. Puis qui serait plus performant aussi. Là. Ça va des deux sens.
Je veux juste vous... tout à l'heure, vous aviez commencé une phrase, vous avez dit « Bon, mes patrons me laissent pas, les employeurs nous laissent pas, c'est-à-dire nous laissent pas gérer notre temps ou nous donnent pas du lest. » Qu'est-ce que vous vouliez dire?
Travailler à temps partiel.
Oui,
ah, ben,
c'est
en
ça.
Fait, en fait, moi, j'ai une belle horaire. Là. J'ai un horaire flexible variable. On doit faire nos heures, mais avec la conciliation travail-famille, ça va super bien. Mais c'est pas le cas des gens autour de moi dans la
c'est
grande
ça.
Majorité.
Ouais.
Donc, tu sais, moi, je peux faire, ben, commencer un petit peu plus tard, puis ce soir-là, ben, travailler un petit peu à la maison.
Mm.
Pas à tous les moments de l'année, mais quand même, on réussit à bien se débrouiller. Il y a beaucoup d'emplois que c'est des heures très, très fixes dans l'heure de pointe. Puis... La flexibilité, ben, ils peuvent pas toujours. Tu sais, si le magasin ouvre, il ouvre.
C'est ça.
Quand
exactement.
Les élèves s'assoient en classe, ça prend le prof.
Ouais.
Donc,
merci Marie, puis bonne chance à votre famille. On s'arrête ici, très courte pause. On revient avec vos commentaires et ceux de nos invités. Le docteur Yves Lamontagne est avec nous, Julie Debelle également, qui est une enseignante retraitée. Dans la grande région de Montréal, vous pouvez nous joindre. Vous faites le 514-790-9850. Je vous demande si vous êtes épuisé, vous aussi, comme beaucoup de Québécois en ce moment. Est-ce que vous êtes épuisé, Claire, comme à peu près au moins la moitié du Québec? Bonjour!
Bonjour. Alors, écoutez, je dirais peut-être pas épuisée, mais un peu usée. Par contre, j'ai décidé, moi, ça fait 2 ans, je suis physiothérapeute, je travaille dans un petit hôpital. Je travaille à l'étage de médecine, donc docteur Lamontagne, il doit voir un petit peu qu'est-ce que c'est notre situation. Mm-hmm. On a une quarantaine de lits et nos patients sont hospitalisés parce qu'ils ne pouvaient pas retourner à la maison à l'urgence. Donc, vous vous imaginez que en entendant les derniers mois que les urgences débordent, où est-ce que la pression se met? La pression se met à l'étage. Il faut donner des congés. On a beaucoup, beaucoup de pression pour réfléchir vite ou même pas réfléchir. Vite. Puis vous savez que ceux qui sont hospitalisés, en général, la moyenne d'âge est dans les 80, en tout cas dans notre centre. Mmh. Les plus jeunes retournent à domicile à partir de l'urgence. Donc, c'est des situations sociales. Des fois, il y a de l'abus financier. Tout est précaire. Ils vivent à la maison. Ils sont des mains. Ils n'ont pas de famille. Donc, c'est très, très complexe. On a cette pression-là. Mais je vais vous parler de deux anecdotes où j'ai décidé que moi, je prévenais l'usure puis l'épuisement. Ouais. Mm-hmm. Donc, c'est moi, un des critères que je trouve dans la santé qui est déficient, c'est la gestion. Mm. On a tendance à mettre des professionnels qui n'ont aucune formation en gestion. Je m'excuse au HEC ou ceux qui ont le MBA, là, mais si tu es une infirmière ou une ci ou une ça de formation puis tu fais une petite maîtrise, ça ne va pas te mettre automatiquement un bon gestionnaire.
C'est
moi,
sûr.
Des fois, j'aimerais mieux avoir des gestionnaires de formation qui sont mettons, avec en partenariat avec un clinicien.
Tout à fait.
Mais je m'excuse, mais les principes, eux autres, ces gens-là, c'est incroyable, les gestionnaires. Il faut qu'ils montent tout leur budget, budget du personnel, budget des dépenses. En tout cas, bref, moi, dernièrement, au mois d'octobre, au mois de novembre, j'ai un collègue de travail d'une autre discipline, mais avec qui il est ergothérapeute, avec qui je travaille étroitement, qui est tombé en maladie. Donc là, on se retrouve pas d'employé à ce moment-là, à l'étage de médecine. C'est urgent. Donc, un hôpital, moi, je fais partie du CUSM, un hôpital connexe nous dit « Ah, nous, on a une très bonne, on vous l'envoie. » Écoutez, madame, ça valait pas de la merde, je m'excuse. Je sais pas comment qu'elle a passé sa probation. Je sais même pas comment qu'elle fait partie du collège encore. Elle a passé sous le radar. Hey, moi, là, elle m'épuisait, cette fille-là. Elle faisait son travail, je faisais son travail, mon travail. Je répondais toujours à ses questions. Elle tirait pas son lot. Donc, à un moment donné...
Elle tirait pas son lot, vous dites? Elle faisait pas sa tâche. J'adore cette expression. C'est comme, faut que chacun fasse son bout, sinon t'épuises le collègue d'à côté. Mais ça, c'est un problème. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose, Claire. Puis on en parlait avec les préposés aux bénéficiaires qu'on avait hier, qui témoignaient, qui étaient tellement bons à nous raconter ce qu'ils vivaient. Puis ils disaient ce que vous venez de dire, là, c'est que si l'autre à côté, là, il opère pas, il tire pas son lot, là, comme dit Claire, puis que ou qu'il est pas là, tu sais, des fois, ils disaient, on est supposé avoir 4 personnes la nuit. Il y en a 4 sur 4 qui ne rentrent pas.
T'en as ton troc. Il ne tire pas son dos, t'en as ton troc.
Ouais. Fait que c'est le collègue qui épuise l'autre collègue. Merci beaucoup de votre intervention, Claire. On a Roger avec nous. Roger, j'avais hâte de parler à un homme parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup de femmes qui... Mais ça, docteur Lamontagne, c'est connu. Les femmes ont tendance à parler un petit peu plus de leur état de santé puis comment... on est plus près de nos émotions, on peut le dire. Oui, c'est pas sexiste de dire ça. Les gars ont plus de misère.
C'est bien d'ailleurs que ce soit comme ça.
Puis mais les hommes, il faut qu'ils s'habituent un peu.
Moi, j'appelle ça, l'homme devrait devenir un peu plus rose, puis des fois, la femme un peu plus bleue.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, donc, on a Roger. Vrai. Roger, merci
bonjour,
de nous appeler. On vous écoute. Êtes-vous épuisé, vous, Roger?
Ah ben, je l'étais. J'ai travaillé dans une institution financière en 2009. Avec des conditions de travail, j'ai même pas les mots pour vous les expliquer. Quand on parle de charge de travail, on parle de pression, on parle de pression de vente, pression d'environnement, pétition, c'était quelque chose. Alors finalement, en 2013, comme les gens qui se sont appelés auparavant, j'ai pris la décision de prendre... recul. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, si on veut.
Mm-hmm.
Et ça m'a permis de prendre un petit peu de recul pour voir la source principale de où ce que ça venait, ce stress-là, cet épuisement-là.
Mm.
Et ce que j'ai constaté, c'est que souvent, dans mon cas, dans le cas de ma femme et mes alentours, c'était l'argent.
Ouais.
C'était notre attitude envers l'argent.
Ouais.
Comment on dépensait l'argent. Mm-hmm. Comment on ne respectait pas l'argent. Comment l'argent nous contrôlait dans un certain sens et nous causait un immense stress et un cercle vicieux qui est le résultat qui nous rend épuisés, fatigués, épuisés comme la dernière personne de table. Tout pour dire que je pense qu'il y a une responsabilité qui doit être prise en charge de chacune ou chacun des gens qui le vit. Il y a une pression, il y a une responsabilité pour qu'on accepte envers l'argent et commencer à prendre des bonnes décisions envers l'argent quand on parle de nos finances, quand on parle de bien vivre et de peut-être pas acheter la belle maison ou la grosse voiture ou bien manger dans les restos, les belles vacances et avoir le tout et la grosse TV, les billets de hockey, tout ça et être endetté aux yeux. Parce que ça a un coût d'opportunité.
Mm.
Ça a un coût d'opportunité. Ce coût d'opportunité-là n'est pas seulement financier, mais souvent mental et physique. C'est ce que j'ai constaté.
Vous avez tout à fait raison. On vous écoute avec beaucoup d'intérêt parce que je pense que il vient de mettre le doigt sur quelque chose, Roger. Là. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure.
C'est comme ce que disait Monsieur Docteur Lamontagne. En fait, ça devient une forme d'esclavage.
Ouais, complètement. C'est ça qui décrit.
Ouais, fait.
C'est même pas combien on dépense, c'est comment on dépense, quel choix on fait.
Vous, monsieur,
là.
Vous l'avez réglé le problème. Mais quand on regarde ça pour la grande majorité des gens et que vous êtes saturé d'images à la télé, sur les restaurants, sur les voyages dans le sud, mettez-en, là.
Ben, il y a beaucoup de tentations. On est des junkies de consommation.
Ben oui, c'est ça.
Mais est-ce que.
Il faut avoir une volonté assez sévère et correcte, d'ailleurs.
Mais en même temps.
On va s'imposer une façon de vivre qui va être correcte.
En même temps, Dr. Lamontagne, j'ai envie de dire, je nous comprends un peu. Je nous comprends de vouloir peut-être des fois dire, hey, regarde, c'est vendredi, là,
bien sûr,
je le mérite, là, je m'en vais magasiner ou bien je vais me prendre un verre de quelque chose ou bien. Peu importe quelle est notre tentation, je nous comprends parce que regardez les politiciens. Là, on va avoir un... Je ne veux pas virer ça politique, mais c'est quand même intéressant de voir les modèles qu'on a au niveau politique qui gèrent quand même, on parlait de gestionnaire, ils gèrent notre argent. Mm-hmm. On travaille quand même la moitié de notre temps pour le gouvernement dans l'espoir qu'on ait des services quand on veut les avoir. Puis là, le problème, puis ça doit nous stresser. Je ne peux pas croire. Moi, ça me stresse de savoir que si je vais à l'hôpital, ça va être 13-15 heures d'attente. Ou je suis bien de m'arranger tout seul ou de m'en trouver un médecin au privé. Mmh. Ça affecte aussi, non?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
On n'avait pas ça avant, hein? À votre époque, là, quand vous pratiquiez la médecine, c'était
mais
pas ça.
Peut-être qu'avant, les gens n'y allaient pas non plus. Vous savez, à un moment donné, quand l'assurance maladie est arrivée, on a dit aux gens, maintenant, là, ça ne coûte rien. Fait que les hôpitaux, quand vous êtes malade, vous y allez. Bien, ils ont compris.
L'espérance de vie aussi.
Puis ils sont allés. Puis souvent, vous demandez aux gens, là, ils ont l'impression que je vois pas, ça ne coûte rien. Mais voyons donc, ça coûte des millions et des millions, puis c'est pris dans nos impôts. Alors là aussi, il y a de l'éducation populaire à faire. Deuxièmement, il y a de la gestion qui doit être meilleure. Madame l'a dit tantôt.
Ouais.
Elle a l'avantage de travailler dans un petit hôpital, ce qui est plus facile que dans un grand hôpital.
Ouais.
Et dans la gestion, d'avoir une gestion combinée. Moi, j'ai appelé ça tout le temps le beau petit couple. Un docteur avec un administrateur. Et les deux ensemble s'entendent comme larron en foire. De cette façon-là, ça serait mieux né, alors que là, c'est tout l'un ou tout l'autre.
Mais c'est ça, il y a quelqu'un qui m'écrit, même des médecins entre eux se font la vie difficile. Exemple, un médecin près de 60 ans qui se fait offrir de partir s'il ne suit pas le rythme. Au lieu d'ajuster l'horaire de garde à une certaine convenance et laisser les plus jeunes prendre certaines gardes, allez donc dénoncer le fait de sans se faire harceler par le chef du département qui gère en petit Napoléon au lieu de gérer en laissant le groupe se trouver des solutions qui conviennent à tous.
Tout à fait.
On parle de bureaucratie, il y en a beaucoup dans le milieu de l'éducation aussi.
Mais la question que je me posais, je vais revenir au mode de vie, c'est que comment se fait-il que pour se faire du bien, pour se dire, comme vous disiez, c'est vendredi, je vais aller magasiner, je le mérite, pourquoi est-ce que prendre une marche d'une heure ne ferait pas pareil, puis ça ne coûte rien? Appeler un copain, faire de la méditation, se cuisiner quelque chose de différent. Bref, pourquoi est-ce qu'il faille dépenser des sous pour qu'on ait l'impression que finalement, on vaut quelque chose?
En fait, le principe, c'est de se trouver un renforçateur positif
qui
nous aide. Alors, pour certains, ça peut être s'acheter un CD, ça peut être prendre une marche, comme vous dites, faire du sport. Mais il faut que ça reste dans... On est mieux de se payer un petit renforçateur plus souvent qu'un grand renforçateur. Comme je disais tout le temps, au mieux d'avoir s'acheter un CD par semaine que de garder de l'argent pendant un an et demi pour se faire bâtir une piscine creusée dans ta cour, puis t'es en burn-out dans ta piscine creusée. Alors, voyez-vous, on est mieux d'avoir des petits renforçateurs plus fréquents qu'un grand renforçateur à long terme.
On revient tout de suite après cette pause. André, êtes-vous épuisé?
Moi, non. Oui, épuisé, mais pas fou. Ah, puis des heures, on en fait, je travaille sur le déneigement.
Oh.
Ah, ben là, en ce moment, oui, vous êtes servi.
Ben, je travaille présentement là, puis on fait des heures en masse. Mais il faut aimer son métier en partant. Puis il faut faire des choix logiques dans la vie. Ce que vous dites à votre recherchiste, là. Moi, j'ai deux petites TV bien ordinaires. J'ai un téléphone cellulaire de 5 ans. Des affaires que tu changes à tous les mois, puis tout. Le monde se crée des besoins, là. Puis là, après ça, c'est 24 heures sur 24, le hockey, le soccer, tout. Nous autres, quand on était jeunes, on avait un choix. C'est soit le hockey ou le soccer, mais nos parents ne peuvent pas courir partout. Là. Ils étaient deux, là. C'est ça, là.
Merci.
À un moment donné, il faut faire des choix dans la vie.
Merci beaucoup. Oui, merci bien. Sylvine, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, je suis infirmière, j'ai 60 ans, je suis infirmière. J'ai encore du plaisir à travailler.
Mm-hmm.
C'est 50 % de l'ouvrage, je crois.
Ben oui.
C'est vrai qu'il y a une surcharge de travail beaucoup. J'ai travaillé dans la médecine, j'ai travaillé à l'urgence. Là, présentement, je travaille en médecine ambulatoire. Je ne travaille pas 20 semaines.
Vous n'êtes pas épuisée, vous, Sylvine?
Je l'ai été. J'ai frappé le mur comme tout le monde. Puis je me suis retroussée. Puis j'ai recommencé.
Qu'est-ce qui vous a aidé?
Mmh. Oh, j'ai consulté.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est ça, oui, oui, oui.
Mais vous avez dû changer des choses dans votre vie, je suppose?
Je suis encore toujours énergique. Mmh. Puis je dérange.
Vous acceptez pas le système. Ouais. Ça garde en vie aussi. Moi, je dis souvent que j'ai une grande capacité d'indignation. C'est ça qui m'aide à rester en vie.
Oui,
c'est ça. Mais la bêtise. Hein?
Je suis une personne colorée, puis moi, je vais travailler avec mon top d'uniforme. Oui, mes pantalons peuvent être jaunes, peut-être carotté rouge, mais la tête peut être jaune. Tu sais, les patients qui sont là pour avoir des soins, mais avoir du plaisir aussi. Des fois, ils sont 5 heures, là. 5 heures, c'est long, là.
Ah, ouais, tout à fait. Merci, Sylvine. Merci bien. Éric, bonjour, on vous écoute. Êtes-vous épuisé, vous aussi?
Non, je suis pas épuisé du tout. Je l'ai été beaucoup l'été passé parce que je travaille ailleurs, je fais de la rénovation à mon compte.
Ouais.
L'été passé, j'ai booké un peu trop d'ouvrage, puis beaucoup de surmenage avec la chaleur qu'on a eue. Ça a été vraiment rough. Mais là, je suis pas mal dans les soumissions pour loader le printemps. Puis c'est ça, un matin, je suis allé déjeuner en skidoo. J'ai fait mes téléphones au restaurant, mais j'étais en skidoo, c'était assez agréable. Hier, un petit 300 km de skidoo aussi. Fait que je prends ça quand même assez relax. Là.
C'est ça. Il faut être capable de... Finalement, vous dites que vous avez décidé d'organiser votre travail autrement.
Oui, bien c'est ça. C'est sûr qu'en rénovation, c'est sûr de planifier exactement le bon... Les jobs, il y a toujours des extras, puis il y a toujours des surplus.
Mm-hmm.
Fait que là, on peut se ramasser à un moment donné qu'on est surchargé. Mais moi, je voudrais envoyer un message au monde qui veulent partir à leur compte, que ça nous donne des beaux... Il y a des temps qu'on est pas mal loadés, puis il y a d'autres temps qu'on est des beaux temps de liberté. Ça donne une belle liberté qu'on peut prendre des journées à notre compte dans la semaine où est-ce que le monde travaille fort. Ben, nous autres, on part en skidoo. Il n'y a pas grand monde dans les trails. Les trails sont belles, c'est agréable. Fait, là, ça nous donne de la liberté. C'est le fun, c'est agréable d'être capable de gérer notre temps.
C'est ça.
C'est ça. Fait, là, pour le moment, moi, je ne suis pas... Puis en plus, j'arrive d'une semaine de vacances dans le sud. Fait, là.
Hey, ça va bien, plus. Vous, on pourrait dire,
allez,
Éric.
Allez, vous matin, là.
Ben oui, là, ça va super bien. Non, mais merci beaucoup. Éric, il a raison.
Ah oui, ben, on voit un genre de gestion du temps.
C'est ça. Puis vous disiez, docteur Lamontagne, qu'il y a quelques années, vous vous étiez payé un cours d'organisation de votre temps.
Ouais,
parce que vous disiez, voyons,
temps.
C'est ça. Vous disiez, mon Dieu, je travaille bien trop. Ah, ça a changé,
ah,
pas
ouais,
dit.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Avant ça, facilement, je travaillais 80-100 heures par semaine. Puis avec ça, je suis tombé à 50-60.
Fait que des fois, c'est juste l'organisation.
Ah oui, oui.
Fait que c'est
aussi,
pareil dans le milieu scolaire.
Il y a aussi la politicaillerie, par exemple. Ouais. Parce
puis
que là, André, lui, il fait pas affaire à toutes ces politiques et ces chicanes de bureau ou entre collègues, etc., etc.
Ouais.
Parce que ça use.
Ouais.
Et ça, ça peut mener à un moment donné au burn-out. Ça épuise.
Ouais. Ouais.
Parce qu'à un moment donné, on peut se retrouver pris dans un carcan dont on sait pas se sortir. Parce que c'est allé trop loin sans comprendre pourquoi c'est allé si loin.
Mais êtes-vous d'accord pour dire que on a tendance à se taire parce que on s'en parlait pendant la pause. Vous disiez tout à l'heure, Julie, quand je dis faut aussi, il faut réagir, il ne faut pas supporter certaines situations.
Faut pas
mais
toujours subir.
Mais faut pas toujours subir, mais en même temps, puis vous l'avez vécu, quand on parle, on risque de perdre notre job. Il y a des gens qui me disent ça. Et moi, regarde, je tiens ça mort, j'ai pas envie de perdre ma job.
En on se fait torturer.
C'est ça, c'est ça. Donc, il n'y a pas quelque chose à changer, là, docteur Lamontagne.
Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire nos opinions. Évidemment. Ouais. Quand on est avec des gens, il y a des façons de dire les choses.
Oui, tout à fait.
C'est pas en garochant une chaise qu'on règle le problème.
Non,
c'est en s'assoyant dessus et en négociant avec l'autre.
Mmh.
Alors, donc, des façons de régler des problèmes. Puis, bien souvent, il y a des dynamiques de groupe aussi. Et le leader de la dynamique de groupe doit, lui, être ouvert.
Absolument.
Comme quand on parle de santé mentale dans l'industrie, ben moi, je dis tout le temps, celui qui est en charge des ressources humaines, il doit pas rester dans son bureau. Il doit sortir de son bureau pour aller voir les gens.
Ouais,
parce
ouais.
que surtout quand on parle de santé mentale, il n'y a pas personne qui va aller lui dire dans son bureau.
Non.
S'il y en a un qui fait l'infarctus, lui, il va y aller lui dire.
Mm-hmm.
Mais alors, s'il sort pas de son bureau, il verra pas ça. Donc, vous voyez, il faut aller vers les autres pour pouvoir comprendre et souvent démystifier des drames qui surviennent alors qu'ils auraient pu être réglés bien avant que ça survienne.
Désarmés, oui. Il faut, faut faire preuve un peu d'empathie aussi. Ouais. Un bon leader fait preuve d'empathie.
Ben
tout à fait. Merci beaucoup, Julie Debelle. Merci, docteur Yves Lamontagne. On va réfléchir à tout ça. On va se retrouver, bien sûr, après les nouvelles. Restez là, tout le monde. Il sera question du pape François et je reçois aussi Mario Jean tout de suite après ceci.